Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Arriveront-ils à vivre enfin tous ceux qui ont vécu ce cataclysme qu'a été la mort violente de Benoît, un jeune collégien ? Violence, peur, honte, lâcheté ou indicible douleur ont contribué à mettre une chape de plomb sur ce drame. Pourtant, n'est-ce pas par la parole que chacun peut accéder à sa vérité et connaître enfin la paix du cœur et de l'esprit? Mais cette vérité-là est parfois longue à émerger. C'est ce que nous découvrons dans ce roman édité par les éditions Feuille, intitulé « Sur le bord d'un volcan éteint », dont nous recevons l'auteur Jean-François Mézy. Jean-François Mézy, bonjour.
Bonjour.
Oui, voilà, alors un roman passionnant, dense, très dense. J'avertis nos auditeurs que pour une lecture de l'été, ils auront de quoi lire, de quoi réfléchir, de quoi méditer. Le début et la fin du roman sont déjà surprenants. Vous intervenez carrément. Et peut-être allez-vous nous lire le prologue.
Eh bien, volontiers, oui. C'est prêt. Je rangeais un tiroir. Un midi de janvier, c'était il y a 13 ans. Des lettres, des revues, j'arrive. Et là, dans une liasse, des coupures de journaux. Décès d'un collégien. Tu viens ? Le couvert m'attendait. Ça sent bon. Je pris le couteau à pain. Les faits me revenaient. Il y avait eu une bagarre. Et coupé avec 4 tranches. C'était dans le gymnase. Déplié ma serviette. Un jeune de 12 ans. Tendit la main vers la carafe, un prénom commençant par un B, 2 syllabes. Souvent, le présent n'est qu'en marge. Il est très rarement dans les gestes qu'on fait. Je remplissais nos verres, ou dans les mots qu'on dit. Je te sers ? Avais-je le droit d'écrire cette histoire ? Pouvais-je au moins m'en inspirer ? Une fois réveillé, le passé nous talonne. D'abord, rencontrer les parents de ce jeune. J'appris que sa mère était veuve. Un ami journaliste me trouva son adresse. Nous convînmes d'un rendez-vous, mercredi prochain, 17h. Madame R, j'invente cette initiale, habitait un quartier de banlieue dans un dédale de rue Modeste, numéro 38, un immeuble ancien. Boulangerie d'un côté, salon de coiffure à droite, entre les deux, l'entrée. Sans interphone ni digicode. Au premier, m'avait-elle précisé. J'ai un peu de retard, ce n'est rien. Une théière attendait sur un apron. 2 tasses, une soucoupe. Des serviettes en tissu, une fleur naïve brodée dans un angle. Asseyez-vous, je reviens. Elle rapporta une assiette en porcelaine blanche. 3 tranches de 4 quarts. Il sort du four, c'est trop gentil. Une forme de silence poli s'installa. J'avais pourtant préparé mes questions. Les avais récitées en venant. Toujours sur la langue, montant l'escalier, dring, la porte qui s'ouvre, et là... Par où commencer ? Ce fut elle qui prit les devants et me parla de son mari et de son fils. Mais par petites touches, se contentant souvent de formules allusives, laissant même parfois la phrase inachevée. Le temps s'écoula. Ma tasse était froide. Elle alla me chercher un album de photos dans une pièce volée tirée. Puis revint, écarta le plateau, posa devant moi son trésor et l'ouvrit. Un mal-être me prit, tandis qu'elle commentait. Je cueillais sa voix, sans un mot. Je cueillais les gestes et la fixité des regards. Le soir s'annonçait. J'avais renoncé à beaucoup de questions qu'aurait-elle ajoutées. L'album encore ouvert, je la vis se lever, aller à la fenêtre, la main soulevant légèrement le rideau. Dehors, un bus redémarrait. Ce fut mon tour de me lever. Je vais vous laisser. L'entrée. Un poêle en fonte, une glace ordinaire. Elle éclaira. Un petit guéridon et 2 photographies appuyées contre un vase en pâte de verre. Je lui tendis la main et voulus... À quoi bon ? Au moment de fermer sur moi, Vous avez la lumière à main droite. Merci. J'allais descendre. Monsieur Mézil. Elle fit un maigre pas et sourit pauvrement. Écrivez votre livre, mais ne revenez pas.
Merci Jean-François Mézil pour cette très belle lecture de ce prologue qui d'emblée nous met dans un sentiment de souffrance. Il se passe quelque chose, mais d'emblée aussi nous montre votre style. Et d'emblée, je vous dirais que ce que j'aime chez vous, justement, et on en parlera plus loin longuement, cette alternance de notation, d'action, ces réminiscences, ces réflexions intimes. Et tout cela, c'est ce qui se passe dans nos têtes, finalement. Il n'y a pas d'ordre. Hein. On fait un geste, on pense à couper le pain, et puis on pense à autre chose. Tiens, il m'avait dit cela. Voilà, c'est exactement ça, c'est la vie. Alors, et vous avez également un épilogue où vous intervenez. Ce sont des personnages un peu comme au théâtre, qui gravitent autour d'un lieu, somme toute, banal, un collège. Chacun est dans son rôle. Travail, rencontre, dispute, mais personne ne veut ou ne sait prendre à bras le corps le problème majeur qui empoisonne l'établissement, la violence qui y règne, du fait sans doute d'un petit groupe d'élèves. Un drame va achever de tout bouleverser, la mort d'un jeune élève, Benoît. Alors on a l'impression que c'est celui qui va être sacrifié comme l'agneau de la Bible. C'est ce à quoi j'ai pensé.
Oui, ben c'est une belle image en tout cas, et ça...
C'est l'image de l'innocence, de la douleur, de quelqu'un d'opprimé finalement. C'est un enfant, c'est souffrant, malheureux, au bout du rouleau, et que personne ne voit. Et vous mettez l'accent sur un problème majeur, je crois, actuellement. On n'a pas assez de regard, pas assez d'attention, souvent.
Oui. Oui, ça c'est effectivement. Bon, c'est un problème. C'est un roman, effectivement. Enfin, plusieurs thèmes qui s'entremêlent, mais il y a celui, effectivement, de la.
Au départ.
Voilà, de la culpabilité. Et donc, finalement, de montrer que tout le monde est fautif.
Absolument.
Y compris, enfin, il y a à la fin du chapitre 1, il y a ce passage où même les gens qui attendaient le bus comme lui, voilà, personne n'intervient. Alors la mère, bien sûr, les profs, ceux qui le côtoient de près, hein,
mais tout le monde, finalement. Voilà, Jean-François Mézil, dans le fond, on se sent tous fautifs, parce qu'on se dit qu'autour de nous, il y a certainement des enfants, et on n'est pas au courant, puis on n'a pas tellement envie, finalement, on ne va pas au-devant.
Oui, on passe à côté. On est pris par
autre chose.
Voilà,
oui.
Par autre chose, et en même temps, on se dit qu'il aurait peut-être suffi d'un regard, de quelque chose, d'un petit mot gentil, et puis les choses auraient pu ne pas se passer.
Et vous dites, s'il l'avait regardé à l'arrêt d'autobus, rien que ça, et lui avait demandé son prénom et son âge, le collège où il va et où c'est qu'il habite, s'il a des frères et sœurs, des copains, des copines, et que fait sa maman et comment elle s'en sort. Oui, quelque chose alors les aurait alertés. Quelque chose de plus, de moins, de différent, de cette infime différence, mais qui suffit à dévier les trajectoires. Pensez donc, il guette le bus. Voilà, cette absence parfois d'attention, et quand on entend parler de drame, et c'est vrai que les médias en sont friands de drame, et on voit même les voisins qui disent ben non, on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas vu, tout avait l'air de bien se passer. Ouais, on est interloqué, mais ça arrive. Alors, on entre tout de suite, je dirais, dans le cirque. J'ai parlé de théâtre tout à l'heure, maintenant je dirais le cirque, celui des gladiateurs peut-être. C'est une véritable pétaudière, votre collège, hein si je peux me permettre. Je pense que c'est quand même un problème que l'on retrouve dans certains lieux, dans certains établissements, dans certains collèges. Où tout va à volo. Comment l'expliquez-vous, vous ?
Il y a un contexte, effectivement. Bon, il y a un contexte de violence. Hein. On est dans ce collège de ZEP. Bon, j'ai rien inventé. Hein,
Oui.
Et là, il y a différentes... différentes façons de prendre le problème. Et là, d'ailleurs, il y a deux profs qui ont une place importante, le prof d'histoire et la professeure de mathématiques. Et on voit très bien que lui, il n'y croit plus, il est découragé déjà. Et, ils sont jeunes, hein, mais tandis qu'elle y croit, elle veut. Voilà. Donc chacun essaie de se battre comme il peut. Le directeur, lui, il préserve sa carrière et puis il veut pas. Il est droit dans ses bottes.
On se dit quand même que parfois il suffit à la tête quelqu'un qui soude une équipe pour que ça puisse mieux marcher.
Oui, sûrement. Alors que là, c'est le contraire. Il cherche plutôt à mettre les gens les uns contre les autres, pour une espèce de division pour régner.
Oui. En même temps, on sait que c'est difficile. Les professeurs sont harassés. J'en ai entendu certains qui disaient on ne fait même plus de cours. On essaie de mettre de l'ordre, de la discipline, mais les cours, c'est très difficile. Et puis, j'ai entendu un professeur d'anglais disant mais pourquoi enseigner l'anglais là où vraiment, même enseigner le français serait plus judicieux. Sans mettre l'accent, s'il n'y a pas là, on va parler de tous les enfants, hein. Et il y a des agressions physiques également dont vous parlez dans votre ouvrage. Un professeur a été agressé physiquement.
Oui, j'ai rien.
Vous n'avez rien inventé.
J'ai rien inventé,
hélas.
Je me suis documenté, bien sûr, parce que moi-même je suis pas du tout enseignant, hein, donc j'ai pas de. Je suis parti en fait de. Si on peut dire, on peut en parler. Je suis parti d'un fait divers. Hein.
La mort d'un enfant.
Voilà. Et qui m'avait frappé, hein, à la fois parce que c'était un drame, hein, la mort de cet enfant, et aussi par la façon dont les médias s'étaient emparés de l'affaire et la façon dont ils l'avaient relaté.
On parlera des médias.
Voilà, oui. Alors ça m'avait choqué. C'est le point de départ du livre. Alors ceci étant, je n'ai pas du tout.
De clé.
Non, mais je veux dire, je ne suis pas du tout respecté le fait divers lui-même.
Oui,
je me suis complètement écarté.
Sûr,
tout ce qui
sûr,
est à quelques micro-détails près, tout est inventé. Hein. Volontairement, d'ailleurs. Hein,
c'est pas un compte rendu.
Je ne voulais pas raconter cette histoire-là. Mais c'est elle, quand même, qui a déclenché, puisque ça s'est passé, d'ailleurs, en décembre. J'ai gardé le fait que ça se passait avant Noël. Et dès début janvier, j'ai commencé à écrire ce livre. Hein, donc ça m'a vraiment marqué. Je suis parti sur ce livre, sans trop savoir, d'ailleurs, ce que
mener, voilà, ça vous a mené loin.
Voilà.
Parce que, en fait, c'est ça, on voit bien quand même ce que vous faites, les protagonistes, il y a les enseignants, et même chez les enseignants, il y a différentes réactions, et on les voit même dans la vie, même chez les parents aussi, c'est-à-dire ceux qui sont révoltés, ils disent il faut les mater, et on a envie effectivement de mettre quand même un peu d'ordre, un peu d'équilibre là-dedans. Ceux qui veulent écouter les enfants. Et voilà, alors il y a Geneviève.
Oui.
Hein, Geneviève, c'est le professeur de mathématiques, qui, elle, parle comment ?
Eh bien, elle part du principe qu'il faut aimer les aimer, ces enfants. Que si on a l'instant qu'en même temps on les tient, il ne s'agit pas de leur laisser faire n'importe quoi, mais on a envers eux une attitude d'amour, de respect, bien à partir de là on peut obtenir quelque chose. Et d'ailleurs elle obtient quelque chose auprès de l'un,
qui est parti, le leader.
Voilà, absolument.
Oui.
Hein, mais elle est la seule, effectivement. Hein,
oui.
Donc,
oui.
Et voilà, je voulais montrer ça aussi. Hein, montrer c'est une inspiration, j'allais dire, évangélique. C'est-à-dire de montrer que
l'amour peut beaucoup de
choses. Et peut là où le reste ne peut pas. Quoi, hein.
Oui. Alors voilà. Alors je me suis dit, elle a raison. En même temps, n'est-ce pas un discours angélique, à savoir que quand on se retrouve devant une classe de 30 individus, pour peu qu'il y ait quelques meneurs, pas un seul, mais plusieurs, est-ce qu'on peut arriver, tout en faisant court, tout en sachant que la majorité va suivre dans un sens comme dans l'autre, c'est vrai que on n'a pas de solution. Hein,
ça resterait difficile, même pour Geneviève, elle le dit qu'à certains moments,
mais en même temps, elle veut pas baisser les bras. Et on voit une femme, c'est le portrait d'une femme qui quand même justement est généreuse. Elle est courageuse. Et puis elle positive, elle essaie de positiver et elle dit ce sont des enfants. Et puis c'est vrai, ce sont des enfants. Alors, ce qui est drôle, alors il y a les professeurs bon, qui aussi en ont ras-le-bol, bon, il faut le dire. Et puis il faut dire qu'il y a certaines matières où le chahut s'installe beaucoup plus facilement que dans d'autres. Ça, je l'ai entendu dire. Il y a les syndicats qui demandent plus d'argent. C'est plus de moyens, c'est assez classique également. Et puis le principal, dont visiblement vous l'aimez pas, celui-là.
Oui, mais en même temps, j'ai, tout à fait à la fin du livre, là, il y a un chapitre qui lui est consacré, qui adoucit un petit peu, si on peut dire. Enfin, le met un peu, on a un peu pitié de lui, quoi. Je voulais aussi. Je fais attention à ça aussi. L'idée que finalement, dans tout homme, il y a quelque chose de. Oui. Il peut y avoir quelque chose de bon. Quoi.
Et c'est vrai que souvent, dans votre livre, on découvre pourquoi un tel est comme ça, pourquoi agit-il comme ça, pourquoi pense-t-il comme ça. Voilà. Et c'est vrai que vous nous amenez à penser que finalement, quand on sait. On connaît un peu la vie des gens quand on essaie de comprendre ou même qu'on essaie de deviner. On n'a pas toujours les clés et puis on ne va pas cuisiner les gens. Mais on ne pardonne pas forcément. On n'admet pas, on n'accepte pas forcément, mais on comprend. Et ça nous aide à avoir une attitude plus, comment dirais-je, plus positive.
Oui, oui.
Non ?
Oui, plus tolérante.
Plus tolérante, oui. Voilà. Plus tolérante, mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure pour Geneviève, en sachant où est la ligne quand même à suivre. Non ?
Oui, oui, oui.
Oui, parce que moi, le principal, bon, il est médiocre, il est obtus, il est raciste, qui plus est. Là, alors, vous l'avez gâté. Hein. Bon, alors, évidemment, il a des comptes à rendre, lui aussi. Bon, il a la réputation de l'établissement, et puis il a les parents sur le dos.
Ben absolument, oui, oui. Et puis, le recteur, et puis, enfin, voilà. Donc, il est... Et puis, bon, il a... Peut-être, on s'est pas vraiment dit, mais je laisse entendre, peut-être aussi, il a été différent à un moment donné, et puis, là, il a versé de notre côté, en tout cas. Oui. Bon, la vie fait aussi, enfin, que... là, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il est fermé sur... Mais bon, comme beaucoup, enfin, je veux dire, il n'est pas...
Bien sûr. Et puis, il y a peut-être une usure. Une usure,
oui,
chez certains. Peut-être qu'en effet, l'enseignement ne devrait pas être prodigué ad vitam aeternam. Peut-être que... Non, mais une fatigue.
Oui,
parce que
oui.
C'est, vous savez, je pense quand même, en y réfléchissant, que c'est un one-man show continuel.
Oui, oui, oui.
Alors évidemment, il y a Johnny Hallyday qui a tenu longtemps. Mais il n'empêche que bon, les one-man shows, ça peut user quand on est face à une trentaine d'énergumènes,
oui,
plein de vie. Et, oui, probablement. En tout cas... Bon, en tout cas, Étienne, lui, par exemple, bon, dans le fond, il est pas, je sais pas qu'il soit antipathique comme son principal, mais il paraît résigné, un peu mou, un peu, bon, non ?
Oui, bah, fait, il est, lui aussi, là, il a tout un...
Un
contexte, voilà, oui. Un contexte familial qu'on va découvrir petit à petit. Et voilà, il est... Bah, il était plein d'allant au début, il y croyait, puis là, effectivement, il baisse les bras, quoi. Il attend ça.
Oui, alors, il baisse les bras, en même temps, il est admiratif de sa collègue, Geneviève.
Oui.
On se demande même, bon, mais on ne parlera pas de l'évolution de tout cela, on se demande même s'il n'y a pas une idylle en devenir, on ne sait pas trop. Oui, et Geneviève, là, j'avais noté, quand elle parle, elle ose parler d'amour, et ça, c'est vrai que son principal va se moquer d'elle. Oui, les yeux du cœur, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, évidemment, on pense au Petit Prince,
oui,
hein,
oui.
À Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et qu'est-ce qui se passe chez ces enfants qui sont épouvantables, très déchaînés, très mal élevés, etc. Qui sont-ils ? Ce sont des enfants. Cette violence, ça vous intéresse de, vous êtes attentif à ce qui se passe dans notre société ?
Oui, enfin, j'essaie très souvent dans mes romans. Je pense que l'acte d'écrire est là aussi pour témoigner de l'époque.
Hein. Oui, absolument.
J'ai cette préoccupation.
Tout à fait. Et actuellement, c'est vrai. Il y en avait probablement avant, mais il y a de la violence actuellement.
Oui, oui. Oui. Et en même temps, j'essaie d'avoir un regard sur ce monde violent, sur ce qui avec quand même une certaine lumière, une certaine espérance.
Oui,
hein, voilà,
oui, parce qu'il y a des gens qui se battent quand même. Hein. On va continuer là-dessus. Je vous propose une première pause musicale et nous reprendrons ensuite.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous sommes en compagnie de Jean-François Mézil qui vient nous parler de son nouveau roman « Sur le bord d'un volcan éteint ». Oui, c'est un volcan, Jean-François, que vous nous décrivez, ce collège où il y a de la violence et où il y a, heureusement, c'est un fait quand même pas trop fréquent, mais un gamin que l'on va retrouver mort. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. A-t-il été tabassé? S'est-il suicidé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Ce qu'il y a, c'est que vous faites parler les jeunes avec un langage très actuel. C'est souvent très drôle parce que vous changez de registre. Et là, alors, chapeau, hein, excusez-moi, mais je trouve que vous êtes très bon. Vous vous êtes documenté parce que moi, il y a des expressions que je ne connaissais pas du tout.
Oui, oui, je me suis documenté, oui. L'avantage d'Internet, c'est qu'on trouve beaucoup de choses. Et donc, voilà. Donc, je me suis imprégné de ce langage de jeunes qui n'est pas mon langage oui. habituel. Mais je tenais beaucoup à... Et c'est particulièrement vrai dans ce roman, mais j'essaie de caler l'écriture et le vocabulaire au personnage et à la situation, hein, pour que ça sonne vrai. Hein, pour que... Et là, dans ce roman, on a effectivement ce type de vocabulaire très, très, très actuel. Et puis, à l'opposé, si je puis dire, quand j'évoque la mère d'Étienne, qui est une femme d'abord d'un certain âge, mais qui est très tournée vers le passé, eh bien là, il va y avoir une langue qui est très classique,
oui,
presque 19e.
Tout, hein,
voilà.
Tout à fait.
Donc,
oui, oui.
Mais ce n'est pas simplement comme pour faire un exercice
oui,
de style.
Oui, oui,
c'est,
absolument. C'est pour ça vous adapter, coller
voilà,
vraiment
pour, voilà,
à la...
pour sonner vrai. Je crois que c'est important.
Oui, 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 à ce milieu.
Ça, d'ailleurs, je travaille beaucoup cet aspect-là. Et le lien aussi, parce qu'il faut passer de l'un à l'autre sans que ça heurte.
Absolument.
Quoi, hein, que ça paraisse naturel. Quoi.
Absolument. Oui, justement, vous décrivez différents milieux, des milieux bourgeois, des milieux plus humbles, des milieux plus soumis, où je pense à la mère de Benoît, ce jeune garçon retrouvé mort, qui est écrasé par par l'adversité, finalement, je ne vais pas dire par la société, je crois que bon, tout s'est conjugué pour en faire quelqu'un qui a une vie extrêmement difficile. Puis d'autres qui ont un air plus altier, du moins en apparence. Vous venez de parler du frère de la mère du dénommé Étienne. Oui. On va en parler de cette femme. Et puis petit à petit, vous faites en sorte que les vies se dévoilent. Comment procédez-vous alors là?
Je suis pas sûr de pouvoir répondre.
C'est au fil de la
oui,
plume.
Oui.
Vous faites des fiches.
Non, non, non.
Non
j'ai pas de plan au départ. Petit à petit, ça se construit un petit peu, mais enfin, seulement un petit peu.
À l'ordinateur ou pas?
Alors, je travaille à l'ordinateur, oui.
Donc, vous pouvez ensuite mettre un passage, le changer de place.
Oui, mais en fait, non. J'écris de façon linéaire et je ne touche pas. À la structure. Il m'est jamais arrivé, c'est pas que je me l'interdis, mais il m'est jamais arrivé de modifier la structure d'un roman. Par contre, je corrige énormément. Après, je reviens, je corrige les phrases, mais la structure elle-même du roman, elle est conservée.
C'est formidable, parce que vous arrivez à alterner les choses. Ça vient comme
oui.
naturellement.
Eh bien, parce que ça vient naturellement en moi. C'est-à-dire que je ne vais pas les chercher. Ça me vient. Vous savez, j'ai vraiment l'impression d'être traversé quand j'écris. Et l'impression que. À un moment donné, les personnages prennent vie en moi et que ce sont eux qui s'imposent à moi et qui me dictent presque ce qu'ils ont à faire. Ça m'échappe totalement,
oui.
Mais c'est vraiment
oui.
le personnage de Laurent, hein, qui va avoir...
Dont on va parler,
voilà,
oui.
On va parler,
oui.
Mais qui a une place centrale dans la troisième partie,
oui.
Enfin, un peu
oui,
plus centrale.
Eh
bien, en fait, ce personnage, il est apparu au début, il a d'ailleurs un tout petit rôle au début, il est apparu au début parce que je me suis dit, tiens, ce serait bien que Benoît ait quand même un copain, que ce soit pas tout seul.
Oui, et on n'y prête pas très attention.
Et non, mais parce que moi-même, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention.
Oui, oui.
Donc, c'est juste pour dire, voilà, il faut quand même qu'il ait un copain, qu'il ne soit pas tout seul.
Oui.
Et donc, j'introduis ce personnage de Laurent. Mais a priori, c'est tout, quoi. Et puis, j'ai l'impression que c'est lui qui, au bout d'un moment, me dit, mais j'existe, maintenant, il faut faire quelque chose de moi, quoi. Donc, il s'impose à moi, et il va prendre la place centrale de la troisième partie.
Voilà, et les vies se dévoilent peu à peu. Les choses qui expliquent le caractère, le comportement, l'importance de comprendre pour nous, pour ne pas juger trop vite. Alors, il y a la famille d'Étienne. Alors, à un moment donné, on découvre... Bon, Étienne et Geneviève sont amis. Ce sont des bons collègues de travail. Et Noël approche. Elle, qui est seule, va passer les fêtes de fin d'année, Noël et premier de l'an, à Venise. Elle a l'air de positiver la chose, mais c'est vrai qu'il y a une grande solitude, quand même. Lui va dans sa famille, peut-être moins heureux. Et au sein de la famille, il y a des discussions sur le drame de Benoît, ce qui s'est passé dans le collège d'Étienne, et avec des avis, et on croit entendre une discussion dans un repas, un dîner, avec les amis, chacun donnant son avis éclairé, soi-disant. Ça, c'est du vécu aussi.
Oui.
Hein. Mais on découvre, en fait, tout n'a pas été dit sur la mort de Benoît.
Il y a c'est quand même à peu près dit, mais il y a une petite ambiguïté. En tout cas, c'est pas ce qu'on avait cru tout à fait au début, quoi.
Oui, parce que la question, on le saura qu'à la fin. Hein,
oui, oui, absolument.
La
oui,
question, est-ce qu'il a été battu à mort? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il s'est enfui? Mais enfin, on va retrouver son corps.
Oui, absolument. Oui.
Oui.
Mais oui, enfin, l'explication des faits, elle sera donnée effectivement tout à fait, tout à fait à la fin, quoi.
Oui. Mais dans tous les cas, c'est tragique. Dans tous.
Oui,
les
absolument.
Cas.
Oui, absolument. Et c'est un enchaînement qui conduit à ça, un peu par une espèce de fatalité, de choses qui l'amènent de toute façon à, effectivement, là, qui le conduit.
Oui, oui. Parce qu'il a été fortement battu.
Oui,
hein, et bon, s'il est mort de ses coups, c'est terrible. Et pour lui, c'est affreux. Mais pour ceux aussi qui l'ont commis. Et puis, s'il s'est suicidé, évidemment, ça accroît encore la culpabilité des adultes. En fait, ce que vous nous avez amené dans la première partie, je dirais, à connaître un certain nombre d'individus, on y est habitué, et puis ils semblent disparaître. Et je me dis, dans le fond, ils sont anéantis par le poids de ce drame. C'est vraiment une chape de plomb, j'ai dit en introduction. Effectivement, quand quelque chose n'est pas réglé, c'est un poids.
Oui, il y avait il y a eu cette idée qui est arrivée, je dis bien en cours d'écriture, parce qu'au départ, je ne sais pas trop où je vais, mais de placer donc cette troisième partie une douzaine d'années plus tard, et de voir comment, effectivement, un tel événement, qui bien sûr a été oublié par la plupart des gens, continue à travailler les cœurs et les consciences de ceux qui ont été directement...
Oui, on a l'impression que tous sont comme obérés, accablés par un poids qu'ils tentent encore d'enfouir. Et en fait, d'une certaine manière, ils sont tous dans une forme de solitude. C'est comme ça que je l'ai vu, moi.
Oui.
En fait, et une forme de culpabilité. Alors, tout semble figé pendant 12 ans. Et nous revoilà 12 ans après. Alors là, apparaît le personnage qu'on avait un peu oublié, ce garçon Laurent. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Eh bien, c'est un jeune qui avait été le copain de Benoît. On va le retrouver, bon, tout a l'air
d'être... Il ne fiche pas grand-chose,
il court les filles, il est beau gosse.
Et voilà. Benoît l'aide bien dans ses devoirs.
Alors, au début, oui, absolument, oui. Donc, il s'est fait aider par Benoît, voilà. Et quand on le retrouve 12 ans plus tard, eh bien, il a 24 ans, il court les filles, voilà.
Mais ça,
il a eu une vie du jour au jour le jour, et tout a l'air d'aller pour lui, quoi. Il ne se pose pas trop de questions. Et puis, un événement va arriver, qui est une rencontre, en fait, qui va le ramener 12 ans avant, et par rapport à cet événement qu'il avait sans doute enfoui. Hein,
oui, il y a cette jeune fille, ça va être une étincelle, finalement.
Oui, oui,
cette jeune fille, Laura, qui, tout d'un coup, va le ramener 12 ans en arrière.
Oui, il retrouve effectivement une amie du
collège
aussi, voilà.
Oui.
Et
dont il était amoureux.
Dont il était amoureux. Avec, voilà.
Oui, et il était en rivalité avec Benoît. On s'est même posé la question, est-ce que Laurent n'a pas également, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose de mal? Mais en fait, cette rencontre, ça va déclencher quelque chose.
Oui. Oui, je crois beaucoup à ça. Il y a comme ça
des étapes.
Voilà, des étapes et des choses qui arrivent. Et dans tout ce roman, il y a beaucoup de choses comme ça, enfin, qui peuvent passer.
Des signes.
Voilà, absolument. Hein, des signes, c'est-à-dire au sens chrétien. Qui peuvent passer inaperçus pour certains lecteurs, mais qui pour moi ne sont pas du tout. Sont importants. Si vous voulez, pour moi, ce livre, c'est aussi. Enfin, d'un point de vue chrétien, c'est un livre sur la communion des morts. Hein. C'est-à-dire que ce personnage de Benoît qui meurt à la fin de la première partie, pour moi, il continue à vivre. Quoi, hein. Et c'est lui, finalement, hein, il y a différents fils de vie qui sont tirés avec tous les personnages. Et finalement, tout ça, il y a quelque chose qui va faire le ciment. Et ce sont toujours des choses qui sont liées à Benoît.
Et en même temps, je me dis que ces 12 ans, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, pour moi, c'est 12 ans d'une forme d'expiation.
Oui, C'est ce qu'ils
ont préparé. Ils ont mal vécu quand même. Ils ont mal vécu.
Oui. Et ces 12 ans étaient probablement nécessaires pour qu'après émerge autre chose.
Exactement. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est par Benoît que le drame arrive. Je vous disais, cet enfant innocent, finalement, innocent, fragile. Et c'est par Laurent, un autre enfant, dans le fond, il n'a pas grandi, que va arriver une forme de rédemption.
Oui, il y a une, par rapport à donc Henriette, la mère de...
Alors parlons-en, parce qu'on comprend comment son fils, qu'elle dénigre d'une manière épouvantable, son fils donc, qui est prof d'histoire géo, qui est passionné, qui est cultivé, qui doit être charmant, mais très tellement peu sûr de lui. Mais on comprend quand on rencontre la mère.
Oui, absolument. Et oui, en même temps, on va comprendre aussi pourquoi cette femme est comme ça. Et il y a cet autre drame par rapport à un de ses petits-enfants.
Alors vous dites on comprend, mais en même temps, bon, elle a connu des drames, mais c'est pas ça qui lui donne le droit d'être méchante à ce point.
Non, ça lui donne pas le droit, mais
oui, est-ce qu'on peut trouver l'explication, voilà, d'accord, parce qu'elle dénigre tout et tout le monde.
Oui, elle est très dure avec ses propres enfants, avec ses petits-enfants.
Oui, rien ne va. Elle n'est pas capable d'aimer. J'ai pensé à cette phrase de Dostoïevski qui disait « La pire des souffrances est celle de ne plus pouvoir aimer. »
Oui, mais c'est son cas, effectivement, par rapport à ce qui lui est arrivé. Elle s'est fermée, effectivement.
Verrouillée
à l'amour. Et finalement, ce verrou va finir par sauter. Quoi, hein.
Oui.
Et là aussi, il y a... Enfin, y a des fils qui sont tirés, qui sont liés à Benoît, parce que c'est finalement Laurent qui, en essayant de retrouver, enfin, en remontant, essayant de retrouver la mère de Benoît, en fait, va donc retrouver son ancien professeur, va donc rencontrer cette Henriette, et il se trouve que Laurent ressemble au petit-fils d'Henriette, qui est mort à 12 ans lui aussi, hein, exactement comme Benoît. Et alors, elle est déjà dans une période un peu de questionnement, mais ça va provoquer quelque chose chez elle de très fort.
Et Laurent va grandir d'un coup, finalement.
Oui, c'est vrai.
Alors, Jean-François Mézil, on va reparler encore de Laurent et puis de cette personne, mais je vous propose une seconde pause musicale.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Jean-François Mézil et nous parlons de son nouveau roman « Sur le bord d'un volcan éteint ». Jean-François Mézil, ce n'est pas votre premier roman, vous en avez écrit déjà plusieurs.
Oui, j'en ai écrit plusieurs. Il y en a deux autres qui ont été qui ont paru chez Feuille. Hein.
Donc, oui.
Le premier hier est en route et le deuxième, il y aura des premiers, hein, sur lesquels vous m'aviez d'ailleurs déjà interviewé.
Voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un collège de ZEP où règne la violence. Et puis, il y a une bande de jeunes qui raquettent, qui brutalisent d'autres jeunes. Et un drame survient. Un enfant est retrouvé mort, battu. Enfin, on ne sait pas si c'est des coups qu'il a reçus, si c'est un suicide. Et en tout cas, toutes les personnes de l'entourage, que ce soit les enseignants, les jeunes collégiens, se sont choqués, évidemment. Il y a des manifestations de la part des parents, etc., de la part des syndicats. Et puis, tout retombe dans l'oubli pendant 12 ans. Alors, il y a Laurent qui refait surface. Laurent, le seul ami de Benoît. Une amitié un peu intéressée de sa part, et lui-même, il est à moitié sympathique quand même,
oui.
Hein, au départ. Bon, c'est un freluqué, bon. Et puis quand même, il y a des choses qui... Alors c'est là où vous décrivez quand même cette évolution, lui, cette prise de conscience, cette maturation qui se fait.
Oui, enfin, c'est finalement quand l'événement d'il y a 12 ans remonte à la surface qu'il va d'ailleurs chercher à... Il va retourner au collège, il va essayer de retourner une version passée. Donc le collège, et puis la maison de Benoît, et puis là, il va faire une rencontre.
Alors voilà, il fait une très belle rencontre.
Oui. Hein,
c'est Claire, et Claire, c'est autre chose qu'une passade à laquelle il était habitué à des passades. Non, Claire, elle est lumineuse, cette jeune fille. Elle est lumineuse, elle est là, prête à l'écouter. C'est toujours, vous mettez l'accent sur l'écoute également, hein, sur l'écoute des autres. Et elle est portée par une foi vraiment vivante. Et qu'est-ce qu'elle va faire en fait ? Quel va être son rôle auprès de lui ?
Ben, en tout cas, elle va l'amener à se dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il ne peut pas en rester. Enfin, que ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a caché pendant 12 ans, il faut qu'il le dise. Hein.
Oui.
Donc ça, c'est grâce à elle, par une rencontre là aussi. Enfin, Claire, en fait, l'amène dans un carmel, où elle a l'habitude d'aller. Alors, comme il l'aime, ben, il la suit. Hein. Il n'est pas du tout habitué à ce genre de lieu. Mais enfin, il la suit. Et il va être amené à discuter avec une... carmélite. Alors on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas il comprend qu'il ne peut pas rester là, et donc que ce qu'il n'a pas dit, ben, il faut qu'il le dise à la mère de Benoît, donc il faut qu'il la retrouve.
Quoi. Oui, vous mettez dans le fond l'accent sur la nécessité de parler, de dire les choses. Finalement, on se rend compte que soi-même et autour de soi, souvent quand il y a un problème, on enfouit, on ne veut pas faire d'histoire, etc. Mais peut-être que de dire les choses, d'y réfléchir, de dire, évidemment, il y a une manière de dire, mais peut-être que ça aide également. Et là, il qu'est-ce qu'il va faire donc ?
Ben, il va essayer donc de retrouver la mère de Benoît, donc il y a une espèce d'enquête. Hein, voilà,
ah oui, et là, peu, nous sommes absolument dans l'enquête.
Voilà.
Alors, ce qui a frappé, c'est que quand même, il la veut, cette recherche. Il veut aboutir.
Oui, oui. Il est poussé par Claire. Il ressent finalement, plus ou moins consciemment, mais le fait que s'il veut finalement mériter Claire, si je puis dire, hein, entre guillemets, il faut d'abord qu'il se débarrasse de ça, quoi. Qu'il ne pourra mériter, entre guillemets, l'amour de Claire que dans la mesure où il aura passé cette étape, où il aura réglé ce problème.
Voilà. Bon, cette volonté de réparer.
De réparer, oui, absolument.
De réparer.
Oui.
Voilà. Alors, on va pas parler de la fin. Oui. Il faut surtout pas parler. Jamais. Hein. Bon, c'est pas un polar, mais quand même, on va pas parler de la fin. Effectivement, il y a un épilogue dans lequel l'auteur, c'est-à-dire vous, prenez la parole. Moi, j'aimerais parler aussi du style. Par exemple, les descriptions d'épisodes, de vie, des lieux, des milieux qui nous deviennent très familiers. Les personnages nous deviennent proches. Par exemple, bon, on voit que Étienne, lui, il est quand même fier de son savoir, et, bon, sans être prétentieux, mais il aime bien. Donc, Venise, il a envie d'en parler. Bon, on ne sait pas s'il va en parler. Geneviève, elle découvre Venise. Je me suis dit, mais sans doute que Jean-François Mézil connaît Venise et aime beaucoup Venise.
Oui.
Ça y est, vous êtes dévoilé.
Absolument, oui. D'ailleurs, c'est le seul lieu qui est nommé dans ce roman.
Oui,
hein. Après,
le reste,
on ne sait pas exactement
où ça se trouve.
Voilà.
Oui.
Là, par contre, c'était difficile de ne pas le nommer.
Oui. Et alors, donc, évidemment, là, le narrateur, c'est-à-dire vous êtes omniscient, c'est-à-dire vous nous faites entrer dans la vie des personnages, dans leur tête, dans leur pensée, dans leur observation. Parfois, on saute du coq à l'âne, mais c'est ce qui se passe dans notre tête.
Oui.
On dit, tiens, il faut que je pense à aller chercher les enfants. Ah oui, mais pourquoi elle m'a téléphoné pour me dire ça, etc. Enfin, il y a des choses. Et c'est vrai que si on entrait dans la tête des gens, on serait parfois étonné. Mais vous le faites. Vous avez ce pouvoir. C'est le pouvoir de l'écrivain. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Et alors également, Étienne m'a laissé perplexe parce que je me suis dit, c'est curieux parce qu'il y a des passages dans lesquels il se trouve qui sont quasi oniriques. Il y a des moments où je me dis, est-ce qu'il a des absences? Est-ce qu'il n'est il est pas bien dans sa peau? On le sait. Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il est dans un état second, hors de lui-même?
Alors, il y a un peu les deux, c'est-à-dire que ça, c'est dans la deuxième partie, hein, donc après le drame, donc, où effectivement, par moments, il est dans un état second, enfin, il est complètement. Bon, c'est quelqu'un de très nerveux aussi, en fait, donc, qui est très marqué par ce qui se passe, qui est très sensible. Et il y a des moments où alors, il bascule vraiment dans le rêve. Là, on est dans, on est dans le rêve. Quoi.
Dans le rêve, totalement. Alors, tout au cours de votre ouvrage, vous intervenez pour des considérations toutes intéressantes, bon, sur les médias et les infos. Parfois, il y a une forme d'impudeur, de cynisme même. Sur les déclarations des politiques, là, à un moment donné, c'est même drôle. Sur les différents points de vue, sur le sujet, ben, les syndicats, je le disais, manque de moyens. C'est toujours le cas. Hein, on peut pas, comme si l'argent pouvait tout résoudre. Le rôle d'Internet et des blogs. Ah, vous n'avez pas parlé des portables. Ça sera le prochain. Voilà. Donc, vous nous faites au fil de l'écriture et ça vient tout naturellement. Et puis, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas si vous êtes un adepte du rap ou mieux du slam. Moi, oui, le slam, ça me plaît bien. Mais à un moment donné, c'est vraiment un texte de slam. Alors, j'aimerais que vous nous le disiez, si vous êtes d'accord.
Oui, oui.
Alors, page 158, mais vous connaissez, sans doute.
Oui.
Voilà, ça s'appelle réquisitoire.
Venir au collège, la peur au ventre. Ne pas circuler entre les tables. Faire court, la porte ouverte. Ça pleut, ça vole. Stylo, gomme, équerre. Les pierres dans la cour. Les injures dans la classe. Vieux con, tu putes la gueule. Les menaces, pétasse, on va te crever. L'escalade dans la provoque. Sale chienne, connard, pute, enculé. Il cherche l'affrontement. Il crie, il pète, il rote, va niquer tes morts. Croche-pied dans l'escalier. Sale français, bouffonne, sale gouère. Canif sous la gorge, à la sortie. Je crache sur un pion, c'est rien. Je me fais prendre avec du shit, pas grave. Voiture vandalisée sur le parking. Un élève oublie son livre. 2 heures de colle. Celui-ci tabasse un camarade. 2 heures de colle. Un troisième se lève et urine en plein cours. 2 heures de colle, 2 heures de colle, tarif unique. L'école, il y en a tellement. Des semaines d'attente avant qu'il les fasse. Eh, monsieur, ça ne fait rien, vous me collerez l'an prochain. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ôte ta casquette. On perd son temps. Au début, on s'applique. Enlève tes écouteurs. On y croit. On y croit déjà moins. Je te dis d'enlever. On fait l'effort d'y croire encore. Coupe ton portable. On y revient. Ôte ta casquette.
On flanche, on craque. C'est le bout du rouleau. Le système 3D. Découragement, démotivation, déprime. Les exclusions, des vacances en plus. Démission des familles et de l'institution. Réduire les classes, depuis qu'on en parle. Développer des travaux d'intérêt général, j'y crois plus. Rallonger la récré, je vous dis, j'y crois plus. Alors quoi? Favoriser le travail en équipe et l'entraide entre élèves? Je pète un plomb, casquette, écouteurs, portable, stop!
Voilà quelque chose de vigoureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez écrit cela?
Je ne sais pas, ça, je dis bien l'écriture, ça m'échappe. D'un seul coup, j'ai eu cette envie de ce court chapitre, mais pour exprimer un peu, enfin voilà, tout un ressenti, oui. Et ça m'est venu sur cette forme-là très... très alerte, très slam, oui. Enfin, bien que je suis pas, non, moi je ne suis pas du tout. Enfin, j'aime bien quand j'écoute comme ça, mais c'est vraiment par hasard, quoi. Je suis pas du tout connaisseur de ce point de vue-là. Mais
dans un premier temps, ce sont les jeunes qu'on entend, et puis après, ce sont les enseignants.
Absolument, oui. Oui.
Qui répondent, enfin, qui se répondent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec des enseignants avec ce livre?
Alors. Pas directement, enfin, j'ai fait valider le manuscrit par deux amis professeurs, hein. Voilà, pour voir s'il n'y avait pas trop de bêtises. Mais sinon, avant, je me suis beaucoup documenté sur Internet, et voilà, donc c'est ce qui m'a permis de rentrer. D'ailleurs, par exemple, j'ai rien inventé. L'élève qui urine en cours, si vous voulez, je l'ai lu, quoi. Hein.
Oui, absolument. Mais ce que je pense, c'est que ça serait intéressant, justement, d'en discuter avec les enseignants, parce que ça fait réfléchir,
oui,
avec
des
parents d'élèves aussi, des associations de parents d'élèves.
Oui.
Voilà.
Il suffit qu'ils m'invitent.
Mais voilà, il faut arriver à rencontrer tout ce monde, parce que effectivement, c'est là où on voit que tout le monde est non pas coupable, mais quand même est responsable, tout un chacun. Mmh. Oui. Et que dans cette situation que l'on vit actuellement, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que nos enfants peuvent être dans des lieux plus privilégiés, peut-être d'ailleurs que dans les campagnes, il y a moins de violence, hein, c'est possible aussi, mais on est bien certain qu'il y a de la violence ailleurs et que de la souffrance également ailleurs. Et la mère de Benoît en est l'exemple flagrant, qui est dépassée et qui est écrasée par tout ce qui se passe. Voilà. Merci Jean-François Mézil.
Merci.
Sur le bord d'un volcan éteint, un ouvrage paru aux éditions Feuilles. Et voilà, un ouvrage peut-être à lire, en tout cas à lire, et sans doute à méditer, à réfléchir. Merci, au revoir.
Merci.